Cédric du Sport sur Choc FM.
On est de retour sur Cédric du Sport sur Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. On est avec vous avec plaisir en ce samedi 10 février 2024, le deuxième samedi du mois de février. On est en enregistré, on est content d'être avec vous. C'est pas toujours évident là de pouvoir le faire. On aimerait bien pouvoir être en studio plus souvent, mais écoutez, ça prend une petite organisation quand même, mais on va le faire. L'hiver est en train de terminer, on va pouvoir revenir en studio très bientôt. Donc, en première partie, on a parlé bien sûr de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, édition 2023, mais qui s'est jouée en 2024. Beaucoup de gens s'étonnent, mais rappelez-vous, les derniers Jeux Olympiques, pendant le Covid, qui avaient eu lieu à Tokyo, non seulement ça n'avait pas eu lieu à la date, l'année prévue en 2020, ça avait eu lieu un an plus tard, mais c'était pas devant un public, c'était devant des rues clairsemées, quoi. Et ils avaient fait avec. C'est comme ça, c'est dans l'air du temps, et on fait avec, et tant mieux, parce que je peux le confirmer, l'organisation, les publics, les stades, les infrastructures ont été impressionnantes, les pelouses ont été magnifiques. On n'a pas déploré d'incident majeur, sauf peut-être lorsque la Côte d'Ivoire a failli se faire éliminer. Oui, il y a eu des accrochages, il y a eu des bus qui ont été brûlés. Mais pour le reste, la plupart des événements se sont très très bien passés. Et on est content pour la Côte d'Ivoire en tant que pays émergent. Okay, c'est un pays parmi les pays d'Afrique de l'Ouest francophone. C'est sans doute le pays qui est le mieux développé. Et franchement, chapeau au gouvernement ivoirien pour avoir réussi ça. On peut dire ce qu'on veut sur... du point de vue politique, le fait que certaines personnes ne les aiment pas, mais pour ce qui est de travailler pour organiser le pays, rendre honneur à l'Afrique tout entière, refléter les valeurs d'amitié, de respect, d'amour, de convivialité entre les peuples, franchement, on n'a eu que des très 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 belles images durant cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Et on a eu l'occasion d'en reparler durant la première partie. On félicite encore une fois toutes les équipes, en particulier les finalistes, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, et bonne chance et que le meilleur ou que la meilleure équipe gagne. On a parlé également des championnats européens, on a balayé comme on le fait depuis plusieurs, vous le connaissez là, pour ceux qui suivent Cédric du Sport, on a parlé des championnats français, championnat anglais, championnat espagnol, championnat italien, on exclut le championnat d'Allemagne parce qu'on s'en fout un petit peu, et qu'en Allemagne, c'est toujours le Bayern qui gagne à la fin, sauf que cette année, il y a une petite exception, puisque apparemment, l'équipe de Bayer Leverkusen n'a pas encore perdu de match depuis le début de la saison. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire par rapport à cela, et je voulais rappeler que on a quelqu'un, au moment où cette émission est enregistrée, qui fête son anniversaire à Montréal, le 4.0, et voilà, la grande, elle se reconnaîtra de toute façon. Parce qu'il faut rendre hommage à toutes les personnes qui nous supportent dans tout ce que l'on fait. On va maintenant, deuxième partie de cette émission de Cédric du Sport, pour vous parler, on va vous parler d'abord de quoi? De la NFL, on a parlé de la NFL puisqu'il y avait le Super Bowl. On va parler d'abord de quoi? De la Ligue Nationale de Hockey, puisque le match des étoiles, le grand festival avec les matchs ici, les concours d'adresse ont eu lieu ici à Toronto, c'était le week-end dernier. Comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas peur de critiquer quand je pense que quelque chose n'est pas bien fait. La Ligue nationale de hockey peut faire vraiment beaucoup mieux pour populariser le hockey. Parce que c'est toujours... il n'y a pas la même intensité que lorsque c'est le All-Star Game en NBA. Vous voyez, il n'y a pas énormément de diversité. Oui, même s'il y en a beaucoup plus qu'avant, mais ce n'est pas énorme. Et c'était comme si tout était prévu d'avance. Dans le match du All-Star Game, c'est Austin Matthews de Toronto qui a fini MVP. Dans le concours d'adresse, c'est Connor McDavid qui a fini meilleur. Il n'y avait pas de surprise, il n'y en avait vraiment pas. Pour moi, c'était terne. Ce qui a rendu ça peut-être un petit peu amusant, c'était le fait que Justin Bieber était là, que les joueurs voulaient tous prendre des photos avec lui. Encore, bah écoutez, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je me demande qu'est-ce qu'ils voulaient là, prendre des photos avec Justin Bieber. Franchement, Justin Bieber, je sais pas. Oui, il a eu son succès avant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Comme on dit, dans le langage populaire, c'est un has-been. Qu'est-ce qu'il vaut encore? Niveau artistique, culturel, je ne sais pas. Bon, toujours est-il qu'Adidas a trouvé très utile, très intelligent de lui confier la fabrication ou le design des maillots pour ce All-Star Game-là, tant mieux pour eux. Mais j'ai rien trouvé d'excitant. Et c'est tant mieux si les choses se sont bien passées pour eux. Moi, je me contente de ce qui existe, vraiment ce qui se passe sur la glace. Et à ce propos-là, je vais rappeler les classements actuels. Donc, dans la conférence S, c'est Boston qui est toujours en tête. 50 victoires, 30, pardon, en 50 matchs, 31 victoires. Fait une excellente saison, comme la saison dernière. Suivent derrière eux les Rangers. 32 victoires et 16 défaites. Florida, 31 victoires, 15 défaites. Caroline, 28 et 16. Toronto, 26 et 15. Rappelez que Toronto, après le match des étoiles, le match d'après directement, ils avaient été battus par New York Islanders avec le retour d'un ancien joueur d'un Toronto Maple Leaf. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui me fait toujours marrer un petit peu. Chaque fois que des joueurs des Maple Leafs reviennent à la maison, anciens joueurs des Maple Leafs reviennent à la maison, toujours envie de marquer et de briller justement devant leur ancien public. Et ça a été le cas pour ce fameux joueur-là qui s'appelle Pierre Engvall. Allez, suivant Toronto, c'est Tampa Bay, le Lightning, 27 à 19. Détroit, 26 et 18. Philadelphia, 26 et 19. Et derrière, c'est New York Islanders, Pittsburgh, New Jersey, Washington, Montréal qui essaye de se débattre un peu. 21 victoires, 21 défaites. Buffalo, Ottawa et bon dernier dans la conférence Est, c'est Columbus. Dans la conférence Ouest, c'est toujours Vancouver qui est en tête avec une excellente saison. 13, 30, 50 matchs. 34 victoires, 11 défaites en temps réglementaire et 5 défaites en prolongation. Suivent derrière, c'est Colorado, Dallas, Vegas, Winnipeg, Edmonton. Edmonton qui était sur une série avant le All-Star Game de 16 victoires consécutives qui aurait pu égaliser le record NBA de 17 victoires consécutives mais qui a été battu à Las Vegas, les Golden Knights, les champions en titre. Donc, la série de victoires de Edmonton s'est arrêtée à 16 victoires. C'est dommage. Mais c'est tant mieux, c'est ce qui arrive, quoi. Je reviens dans un instant. Je vois que quelque chose qui se passe. Ok. Il va sembler que. Et je rappelle que je suis en enregistré, donc je voulais être sûr qu'il n'y avait pas une petite urgence pendant que j'étais en train d'enregistrer l'émission. Ok, Edmonton qui suivait, je parlais donc des Los Angeles Lakings, suivi par Saint-Louis. Ensuite, derrière, c'est Nashville, c'est Seattle, c'est Arizona, c'est Calgary, c'est Minnesota, c'est Anaheim. Et pour clore le classement de la conférence, ce sont San Jose, les Sharks, et surtout Chicago, les Blackhawks, qui font une saison vraiment misérable. 14 victoires, 35 défaites déjà, et 2 défaites en prolongation. On va dire un mot sur la NBA, puisqu'il y a eu quelque chose d'assez spécial cette semaine. En NBA, c'était ce qu'on appelle la période des échanges. C'est comme pour ceux qui suivent le soccer, c'est ce qu'on appelle l'équivalent du mercato. Le mercato, donc, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'équipes qui changeaient les joueurs. La date limite, c'était le jeudi 8 février, je pense à 15h. Déjà, je vais rappeler les principaux échanges qui ont eu lieu. Je ne sais pas si je pourrais les avoir tous. Bon, en tout cas, au moment où cette émission est enregistrée, on voit que les Golden State Warriors ont échangé Corey Joseph, ancien champion NBA, avec les San Antonio Spurs, donc qui est passé aux Indiana Pacers. En échange, ils ont reçu un tour de draft de second, de deuxième tour et de l'argent. Les Celtics aussi avaient opéré quelques échanges. Ils avaient reçu Jaden Springer et ils avaient reçu en retour un deuxième tour de draft. Et aussi que les Celtics avaient échangé l'ancien joueur de Toronto Raptors, Delano Banton, qui partait de Delano après seulement une demi-saison chez les Celtics, il part déjà, et qui va se retrouver à jouer maintenant chez les Portland Trail Blazers. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Delano Banton parce que les Trail Blazers, ce n'est clairement pas une équipe qui est là pour gagner au cours des prochaines saisons. Donc les Celtics reçoivent qui font partie de Delano Branton et qui en retour reçoivent un deuxième tour de draft. Qu'est-ce qu'on a encore? Les Bucks, qui font partir le vétéran Robin Lopez. Et ça, c'est une surprise parce que Robin Lopez, c'est quand même un joueur qui avait une certaine importance. Il va aller à Sacramento, les Kings, et en retour, ils vont recevoir de l'argent. C'est quand même, ouais, c'est assez surprenant cet échange-là. Parce qu'en plus, Robin Lopez, tout simplement, ne sera pas retenu par la Sacramento Kings. Ils vont le libérer de son contrat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est les Pacers d'Indiana qui font partir Doug McDermott, qui est quand même un joueur, un shooter assez intéressant, hein, puisqu'un très bon joueur, un très bon shooter à 3 points. Donc il va au San Antonio Spurs et en retour, les Spurs vont recevoir Marcus Morris et un second tour de draft en 2029. Les Pistons font laisser partir le joueur français Killian Hayes. Faut dire que lui aussi, ça faisait plusieurs saisons qu'il était là. Je pense que c'était sa quatrième ou cinquième saison. Les statistiques qui n'évoluaient pas au niveau de l'efficacité, c'était vraiment pas ça. C'est franchement, je suis très désolé pour ce joueur-là qui a un certain potentiel physique, mais qui au niveau global de son jeu, c'était pas satisfaisant quoi. C'était quand même un premier tour de draft là, de repêchage. Et qui est un joueur quand on voit qu'au bout de la quatrième année, il n'y a pas d'évolution dans son jeu. Malheureusement pour lui, c'était la fin des haricots. Je sais pas si il aura l'occasion encore de jouer en NBA. Ça m'étonnerait pas. Ben, je pense qu'il pourra avoir encore une chance, mais ça m'étonnerait pas qu'il rebondisse à un moment donné en Europe. Allez, dans les échanges encore en NBA, je rappelle que vous êtes sur Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM, que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. Et on est en deuxième partie, là on parle du mercato en NBA, donc la période des échanges qui a eu lieu jeudi 8 février, toute la journée. Donc Patrick Beverley, un vétéran maintenant en NBA, qui va être échangé, donc il va aller au Milwaukee, les Bucks, et il va quitter les Philadelphia, les Sixers, qui vont eux recevoir Cameron Payne et un second tour de draft en 2027. Les Phoenix Suns vont faire venir Royce O'Neal et David Roddy, alors que les Grizzlies vont recevoir un futur tour de draft et Yuta Watanabe, qui venait des Suns, et les Nets, donc c'est comme un échange à trois équipes, trois futurs second tours de draft, et les salaires ne sont pas encore déterminés. Un échange intéressant, c'est le joueur très prometteur, PJ Washington, qui va aller à Dallas. Et en retour, les Hornets vont recevoir Grant Williams, Seth Curry et un tour de draft en 2027. Et dans ce même échange-là, on annonce le transfert du joueur, l'arrivée au Dallas Mavericks, du joueur le pivot Daniel Gafford, qui va venir des Washington Wizards. Qu'est-ce qu'on retient encore? C'est que le joueur à Détroit, là, c'est les Détroit, les Pistons, qui ont l'intention de libérer le vétéran Joe Harris, qui est un ancien très bon shooter. Là aussi, une opération assez intrigante, là. Les Toronto Raptors, on n'en a pas encore beaucoup parlé, là. On n'en a pas beaucoup parlé pour les bonnes raisons, parce que c'est vraiment une saison de peine et de misère. Donc, alors, il y a eu un échange majeur, là, au niveau des Toronto Raptors, qui vont recevoir Spencer Dinwiddie, donc un ancien joueur quand même assez bon, assez intéressant, mais qui apparemment les Raptors ont décidé pour des raisons strictement économiques de ne pas le garder. Et ils vont faire partir Dennis Schroder et Thaddeus Young. Ben, Dennis Schroder qui était essayé une moyenne à peu près dans 13 et 14 points de moyenne, mais bon, dans la rotation des Raptors, ça ne convenait pas, alors que Thaddeus Young, c'est un vétéran, il n'apportait quasiment rien, donc ben, je vais dire, on va pas dire qu'on le regrette, mais on lui souhaite bonne chance pour la fin de sa carrière. Donc au niveau des Raptors, il y a quand même beaucoup de mouvements. Allez, les Knicks, l'équipe en forme de cette saison-là, d'ailleurs, qui était sur une séquence de 9 victoires consécutives, ces séries interrompues par la Los Angeles Lakers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait venir? Ils ont fait venir Alex Burke et le grand shooter Bojan Bogdanovic, alors que les Pistons ont laissé partir Evan Fournier, Malachi Flynn, ancien des Toronto Raptors, Quentin Grimes, Ryan Arcidiacono. J'ai bien retenu ce nom-là parce que c'est tout simplement un joueur qui a fait 20 matchs en jouant pour les Knicks sans marquer un seul point. Impressionnant. Impressionnant, mais impressionnant dans le mauvais sens. Je pense pas que je pourrais jouer 20 matchs en NBA et ne scorer aucun point. D'ailleurs, dans cet échange-là, apparemment, Pistons ont décidé de ne pas garder Evan Fournier, donc il se retrouve agent libre et sans contrat en NBA. Les derniers échanges, comme ça, considérés, c'est Dallas qui reçoit Daniel Gafford, là je l'avais cité, et les Wizards qui reçoivent Richaan Holmes et un premier tour de draft en 2024. L'Oklahoma City Thunder, qui est l'une de parmi les meilleures équipes cette saison à l'Ouest, donc ils reçoivent l'ancien All-Star Gordon Hayward, et les Hornets vont recevoir Micić, Trayman et David Bertans. Les Sixers, encore une fois, qui font partir Daniel House, il envoie à Détroit et en échange, les Pistons reçoivent, bien sûr j'avais cité Daniel House, mais les Sixers, eux, vont recevoir un second tour de draft de 2028. J'avais cité les Raptors tantôt, un échange qui a eu lieu un peu plus tard, comme ça en fin de journée, le jeudi. Ils ont reçu le Canadien Kelly Olynyk et le joueur nigérien-américain Ochai Agbaji et en échange, ces joueurs-là vont aux les joueurs autoporteurs, anciens des Raptors, donc autoporteurs, ancien champion NBA avec Golden State, qui va au Utah Jazz, et aussi Kyra Lewis, qui n'a même pas eu l'occasion de s'illustrer avec les Raptors, puisqu'il a joué, je pense, un match, genre 3 minutes, quelque chose comme ça. Ben, on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière également. Les Sixers, qui ont décidément été très actifs, qui reçoivent le shooter Buddy Hield et. En échange, les Pacers vont recevoir Korkmaz et Marcus Morris. Donc, il y a eu pas mal d'échanges comme ça qui ont eu lieu pendant toute la journée du jeudi. Il y en a eu aussi la journée d'avant, comme par exemple Tillman qui va aux Celtics et eux vont recevoir Lamar Stevens. Ouais, c'est ça. C'était essentiellement ça, les grands échanges qui ont eu lieu en NBA durant cette journée-là du jeudi 8 février 2024. Il faut savoir que, et pour rappeler un peu le contexte, en NBA, c'est pas comme au soccer, le soccer européen, où les joueurs sont achetés d'une équipe à une autre, moyennant de l'argent et tout ça. Non, tout simplement, ce que les équipes font, c'est qu'elles échangent les contrats. Si par exemple, dans le cas de Damian Lillard, il avait un contrat de 4 ans, lorsqu'il est arrivé à Milwaukee, Milwaukee a pris son contrat, s'engage à le payer, d'ailleurs un très bon contrat, l'un des meilleurs de l'histoire de l'NBA. Je pense qu'il va recevoir comme entre 55 et 60 millions, quelque chose comme ça. Et en échange, ils font partir un joueur qui a, disons, une valeur équivalente ou alors ce qu'on appelle des choix de repêchage. Donc il n'y a pas d'échange d'argent généralement entre les équipes. Quelquefois, c'est le cas, mais c'est surtout des échanges de contrats de joueurs qui se font. C'est pour ça que, par exemple, dans le cas de. Dans le cas des Raptors avec Brooklyn Nets, ils ont fait venir Dinwiddie, mais sans avoir l'intention de l'utiliser en tant que joueur. Leur intention, c'était surtout de le faire venir pour faire partir deux joueurs dont ils ne voulaient plus et se débarrasser du contrat de Spencer Dinwiddie, donc qui est échangé aux Raptors, mais qui vraisemblablement ne mettra jamais le maillot des Toronto Raptors. Ce sont les réalités du métier. Et là, je viens d'apprendre, pendant que je suis en train d'enregistrer cette émission, la confirmation que apparemment Evan Fournier a été envoyé à Détroit, mais qu'apparemment Détroit n'a pas l'intention de le retenir. Il faut savoir que Détroit, c'est une équipe qui est dans un processus de reconstruction un petit peu raté. Là, pour vous donner une idée, en 50 matchs cette saison, ils ont seulement 7 victoires. Donc, oui, Evan Fournier peut apporter son expérience, mais ce n'est pas un joueur qui va leur permettre de passer à l'étape supérieure. Donc, il préfère le libérer de son contrat. C'est tant mieux pour Evan, puisqu'il n'aura pas à jouer dans une équipe de très très bas niveau. Allez, pour finir sur cette page NBA-là, dans Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi, on va donner les classements comme on le fait chaque semaine. Avec dans la division Atlantique, c'est Boston en tête, 39 victoires, 12 défaites. New York suit, 33 victoires, 18 défaites. Ensuite, c'est Philadelphia où ils ont eu la confirmation que Joel Embiid va être blessé et ne jouera pas pour une longue période, donc avec sa blessure au genou. Donc 30 victoires, 20 défaites. Brooklyn, 20 victoires, 30 défaites. Et c'est Toronto qui est dernier de la division Atlantique avec 18 victoires, 33 défaites. Dans la division centrale, c'est Cleveland qui est en tête, 33 victoires, 16 défaites. Sur Milwaukee, oulala, c'est pas, ça passe pas. Depuis l'arrivée de Doc Rivers, donc depuis qu'ils ont licencié l'ancien coach, ils sont sur une victoire et 4 défaites. La mayonnaise prend pas. Et moi, je vous avais dit, Doc Rivers, franchement, non. Non, il a peut-être été un bon coach avant, mais je doute sérieusement de ses compétences depuis qu'il a quitté les Los Angeles, les Clippers. En tout cas, une victoire, quatre défaites depuis qu'il est arrivé à Milwaukee. Indiana suit avec 29 victoires, 23 défaites. Chicago, 24 victoires, 27 défaites. Et c'est Détroit qui ferme la marche. Plus mauvaise équipe en NBA, je pense, avec les San Antonio Spurs. 7 victoires, 43 défaites. Dans la division sud-est, c'est Miami qui est en tête, 28 victoires, 24 défaites. Orlando, 27 victoires, 24 défaites. Atlanta, 22 victoires, 29 défaites. Charlotte, 10 victoires, 40 défaites. Et enfin, Washington, 9 victoires, 41 défaites. Avec un match en particulier du joueur. Pour Jonathan Poole qui a réussi un match catastrophique samedi soir, pardon, samedi soir, qu'est-ce que je raconte? Mercredi soir avec 0 point, 0 passe et 0 rebond et surtout 6 fautes. C'est incroyable ce joueur-là qui on pensait que c'était le futur successeur de Steph Curry, comment il a perdu son niveau, c'est quasiment choquant quoi. Jordan Poole, quelle catastrophe. Allez, dans la conférence Ouest, dans la division Pacifique, c'est les Clippers qui sont en tête. 34 victoires, 16 défaites. À un moment donné même, les Clippers étaient la meilleure équipe en NBA dans le classement général. Suivant Phoenix, 31 victoires, 21 défaites. Sacramento, 29 victoires, 21 défaites. Lakers, 27 victoires, 25 défaites. Et les Golden State Warriors qui essayent de survivre, là, de surnager, mais ils sont vraiment juste en dessous de la ligne de flottaison. Avec 23 victoires et 25 défaites. Dans la division sud-est, ce sont les New Orleans, les Pelicans, 31 victoires, 21 défaites. Dallas qui a enregistré le retour de Kyrie Irving avec un gros match pour revenir. Je pense qu'il a marqué comme 36 points, comme ça. Donc 28 victoires, 23 défaites. Houston qui commence à peiner là. En plus, on a appris que Fred VanVleet va être absent pour plusieurs semaines. Donc après un début de saison très intéressant, ben les Baby Rockets, ça va commencer à devenir difficile. Ils vont tousser là. Je ne pense pas qu'ils arriveront à survivre pour se placer pour les séries, les playoffs. Memphis, bon, Memphis, c'est une caricature d'équipe maintenant puisqu'ils ne font jouer que des remplaçants. Mais de toute façon, la saison est déjà ratée. 18 victoires, 33 défaites. Et San Antonio, 10 victoires, 41 défaites avec Victor Wembanyama qui arrive quand même à survivre. Dans la division nord-ouest, c'est Oklahoma City qui est en tête, 35 victoires, 16 défaites. Minnesota, même résultat. Denver, même bilan. Donc, trois équipes avec exactement le même bilan. 35 victoires et 16 défaites. Donc, ça, c'est Oklahoma City, Minnesota et Denver. C'est très, très rare que cela arrive en NBA. Utah, qui est exactement à 50% dans bilan à égalité. Donc, 26 victoires, 26 défaites. Et enfin, Portland, qui ferme la marche avec 15 victoires et 35 défaites. On va finir sur cette émission de Cédric du Sport, juste avant de dire un mot sur les Jeux Olympiques, avec les classements individuels. Meilleur marqueur pour l'instant en NBA, c'est Joel Embiid, avec 35 points par match, suivi par Luka Doncic, 34, Antetokounmpo, 31, Shai Gilgeous-Alexander, 31, Donovan Mitchell, avec 28,5 points par match. Au niveau des défenseurs, rebondeurs, Domantas Sabonis, 13 victoires, 13 rebonds par match, Rudy Gobert 12,6, Anthony Davis, Nikola Jokic et Jalen Duren, tous ces joueurs sont autour de 12 rebonds par match. Au niveau des passeurs, c'est toujours Haliburton en tête, suivi par Trae Young, Luka Doncic, Nikola Jokic et James Harden. Au niveau des contreurs, c'est toujours Victor Wembanyama qui est en tête avec 3 contres par match, suivi par Brook Lopez, Kessler, Chet Holmgren et Anthony Davis. Au niveau des marqueurs à 3 points, c'est toujours Steph Curry en tête avec environ 5-3 points par match, suivi par Luka Doncic, CJ McCollum, Anfernee Simons et Trae Young. Et enfin, au niveau des intercepteurs, donc ceux qui volent les balles, c'est Shai Gilgeous-Alexander toujours en tête, suivi par Donovan Mitchell, D'Aaron Fox, Kawhi Leonard et D'Anthony Melton. Un mot sur le All-Star Game, puisque deux joueurs ont été retenus suite aux blessures de Joel Embiid et son nom m'échappe, le joueur l'ailier fort de New York qui est blessé aussi. Donc, ils ont retenu notre bon vieux Scotty Barnes qui va remplacer ces joueurs-là. Donc, ça, ce sera pour les Toronto Raptors qui enregistrent le retour d'un joueur de Toronto au All-Star Game. Et de l'autre côté, ça va être Trae Young qui va faire sa première apparition au All-Star Game. C'est très mérité pour ce joueur-là parce qu'il réussit de beaucoup de belles saisons depuis plusieurs années. Donc, c'est totalement mérité. 27 points quand même par match, Trae Young. Donc, il était temps. Il était temps qu'il ait sa chance de pouvoir s'exprimer pour ses. Pour ses, pour ses, pour le, pendant le All-Star Game. C'est un joueur spectaculaire, même si c'est un joueur qui fait beaucoup de trash talking, donc il parle mal aux autres joueurs, mais ça reste que c'est intéressant de voir ce qu'il peut faire pendant le All-Star Game. C'est un joueur, vous savez, hein, on sait que Steph Curry, c'est un joueur qui peut tirer à 10 mètres, mais Trae Young est l'un des rares joueurs à pouvoir faire de même, donc c'est totalement mérité pour lui. Ok, donc c'est tant mieux qu'il soit là. De l'autre côté, on a notre petit Scotty Barnes qui était champion, ben pas champion, mais rookie de l'année. Ça fait maintenant 2 saisons. Donc voilà quoi, c'est très très bien ce qui lui arrive aussi. C'est un joueur qui a fait, qui réalise ses meilleures statistiques en carrière. C'est vrai que la saison n'est pas très intéressante pour les Toronto Raptors, mais c'est un joueur qui représente l'avenir. Tout simplement de la NBA. Pour finir, pour cette émission de Cédric du Sport, rappelez que le compteur à rebours pour les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est maintenant dans exactement 167 jours, non, 166 jours au moment où vous écoutez cette émission, mais un petit peu plus au moment où nous l'enregistrons. Donc, 168 jours, 11 heures, 13 minutes et 50 secondes. À partir du moment où nous enregistrons cette émission, donc c'est très très précis, on annonce qu'il y a des billets VIP, donc pour les personnes très importantes qui ont été mises sur le marché, mais personne ne veut les acheter, ça m'étonne pas. Avec la crise qui continue, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous sur cette émission de Cédric du Sport sur Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Écoutez. C'est un honneur, c'est une bonne chose qu'on puisse le faire ici, sur la radio 100% Toronto, 100% francophone. On se retrouve la semaine prochaine dans la mesure du possible,
Vous
même
écoutez
heure,
Cédric?
même fréquence, pour parler de sport sur les ondes de Choc FM. Pour l'instant, écoutez l'émission Derrière le volant avec Jacques Dehaye sur le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone.
Vous écoutez Cédric Desparches sur Choc FM?